Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous en sommes sur l'étude sur l'Apocalypse. Nous avons passé pas mal de temps sur les trois premiers chapitres. Les introductions, les pourquoi de ce livre. Comment Jésus va se révéler, Jésus glorifié se révèle à Jean. Et la gloire qu'il y a sur Christ. Et alors que Jean voit cela dans une vision, il s'écroule devant le
Christ.
La puissance de Dieu le saisit. Parce qu'il voit le Seigneur glorifié. Bonne nouvelle pour nous. Nous verrons ce même Seigneur qui est décrit exactement dans l'Apocalypse. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a les descriptions les plus incroyables. Et c'est très intéressant de voir ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que le jour même où ton cœur va faire et peut-être qu'il va essayer de faire et bien ton être intérieur, ton être réel, ton esprit et ton âme vont partir. Si tu es né de nouveau, tu vas au troisième ciel. Et tout ce que nous sommes en train d'étudier, toutes les visions que Jean a eues, nous décrit, c'est exactement ce que vous allez voir. Alors, le mieux, c'est que tu dises à Jésus ce jour-là, Seigneur, merci, c'est exactement ce qu'il y avait écrit dans ta parole. Plutôt que d'être là, dire, c'est quoi l'être qui a plein d'yeux autour, des yeux partout et des ailes? Jésus te dira, t'as pas lu ma parole? Ça s'appelle chérubin. Pardon, Seigneur. Et c'est qui ces messieurs avec des couronnes tout autour, assis sur des trônes? Jésus te dira, tu n'as pas lu ma parole? Et là, tu seras un peu dans la confusion, entre guillemets. Et Jésus dira, Steve, maternelle
1,
il faut tout réapprendre. Éducation spirituelle. Certains ont dit, et je pense que c'est vrai, mais je n'ai pas de texte pour appuyer ça. Le seul texte que nous avons, c'est dans 1 Corinthiens 13, où la Bible nous parle de connaître parfaitement. Depuis notre nouvelle naissance, nous connaissons Dieu. Tu peux dire, je connais le Seigneur. Mais ta révélation de Dieu n'est pas parfaite.
Et
celui qui habite en toi est parfait. Mais la révélation de l'infini de Dieu n'est pas parfaite pour toi. À chaque fois que tu découvres quelque chose de nouveau dans la parole, que tu expérimentes quelque chose de nouveau, alors ta connaissance augmente. Mais le mieux, c'est que ta connaissance augmente énormément. Je crois qu'il va y avoir des choses que nous allons avoir comme récompense supplémentaire par rapport à la connaissance que nous aurons ici de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont passé leur temps à chercher Dieu et à voir Dieu se révéler à eux, les différentes facettes de l'infini de Dieu. Ça, c'est extraordinaire, parce que Dieu est quelqu'un d'infini. Toi, tu es limité, tu es dans ton espace-temps ici sur cette petite terre. Mais lui, il maîtrise tout, du plus profond, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Il est le Dieu de l'infini. Il est le Dieu de l'éternité. Il est le Dieu tout-puissant.
Vous
voyez, à chaque fois qu'on met un qualificatif avec Dieu, on a l'impression qu'il n'y a pas de fond. C'est immense, c'est infini à chaque fois. On dit il est tout puissant. Ça veut dire quoi, tout puissant?
Bah,
ça veut dire qu'il peut toute chose. Oui, mais ça veut dire quoi, il peut toute chose? C'est où la limite de tout? Vous avez déjà réfléchi?
Mais
pourtant il faudrait y réfléchir. Parce que je crois que nous irons au ciel. Dieu va parfaire notre connaissance. Certains ont dit que on prend des leçons de la connaissance de Dieu au ciel. Plusieurs témoignages vraiment dignes, je dirais, d'attention nous parlent d'accroissement de la connaissance de Dieu. Maintenant, on n'a pas vraiment de texte qui supporte ça. Donc, nous restons un peu prudents. Nous ne faisons pas une doctrine, mais ça semble plausible, ça semble vrai. Parce qu'il y a beaucoup de choses que peut-être tu n'as pas encore découvertes et que tu ne découvriras jamais avant de mourir physiquement. La dimension de l'éternité. Rappelez-vous que ça, c'est très important. Jésus se révèle à Jean au départ. Puis après, il va lui donner un message aux sept églises. Et nous avons parcouru toutes ces sept églises. Nous avons vu les points forts et les points faibles de chaque église. Les leçons à en tirer. Les questions qu'on se posait là-dessus. Et le Seigneur nous donne vraiment au travers de cette église, de ces sept églises, de ce message, les conditions diverses que nous pouvons voir dans l'église de Dieu en général. Et d'un seul coup, au chapitre 4, tout va changer. D'un seul coup, Jean va se retrouver dans une nouvelle révélation, une autre vision. Et on va relire ça brièvement et on va continuer à commenter. Verset 1, il est dit au chapitre 4, après cela, voici qu'une porte ouverte dans le ciel, telle qu'une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler. Rappelez-vous, la première voix, c'est la voix qu'il avait entendue au chapitre 1, je vous le rappelle. Me dit, monte ici et je te ferai voir. Partout, vous avez ce verbe voir dans l'esprit. Voir ce que tes yeux ne peuvent pas voir dans le naturel. Parce que tes yeux voient seulement le monde visible. Et là, il lui parle de choses invisibles. Il dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect d'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, quatre êtres vivants, remplis Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant comme un visage d'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui est au siècle des siècles. Ils jetteront leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes ces choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc ici, je vous ai dit, il faut faire attention à une chose. Il y a quatre points importants. Là, nous rentrons dans une autre phase de la révélation. D'abord, on voit que Jésus disparaît. Au chapitre
3,
Jean ne voit que Jésus. Hop, d'un seul coup, il ne le voit plus. Jean rentre dans une deuxième vision qui sera parsemée de différentes visions. Ensuite, Jésus le prévient que ce sera une révélation principalement sur ce qu'il va arriver. Donc, sur des révélations futures. Bien que nous découvrirons qu'il y a quelques passages qui parlent de révélations passées pour mieux comprendre celles qui sont futures. Et une chose que nous avons remarqué aussi, c'est que l'Église n'est plus mentionnée à partir du début du chapitre 4. Pourquoi ? Parce qu'elle est enlevée. À partir du chapitre 4, vous ne voyez plus l'Église. Alors qu'on a parlé du message aux sept églises, au chapitre 2 et chapitre 3. L'église est au troisième ciel à ce moment-là. Et nous parlerons de l'enlèvement, bien sûr. Et en fait, ce qui se passe à partir de ce moment-là, on verra qu'au chapitre 5, il va y avoir le déclenchement de la tribulation. Et nous verrons que l'événement qui va déclencher la tribulation, c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est le déclencheur de la tribulation. Parce que Dieu ne veut pas que son épouse subisse ses jugements. C'est tout à fait normal. Alors, Jean nous dit qu'il entend cette voix lui parler encore. Et certainement que c'est son ange gardien. Nous reverrons à propos des anges gardiens, c'est important. Et l'ange lui dit, je vais te montrer ce qu'il va arriver, ce qui doit exactement, excusez-moi, ce qui doit arriver. Et là, nous avons remarqué une chose, c'est que là, il va y avoir des événements inconditionnels par rapport à la volonté de l'homme. Ça veut dire que c'est Dieu seulement par sa souveraineté qui a prophétisé d'avance ce qui va se passer pendant ces temps-là. Ça doit se passer. Ce n'est pas quelque chose qui se passera s'il y a ceci et s'il y a cela. Clairement, l'ange lui dit, voici, je vais te montrer ce qu'il doit
se passer,
ce qui doit arriver dans la suite. C'est la souveraineté de Dieu. Donc ensuite, on arrive à la vision du trône que nous sommes en train d'étudier. Et c'est la révélation la plus complète dans ce passage que nous avons du trône de Dieu. Du trône et de la proximité du trône. C'est vraiment, vous ne trouverez pas une révélation aussi précise avec autant de détails. Bien sûr, quand il dit qu'il y avait un trône dans le ciel, c'est au troisième ciel, nous le savons. Et Jean va être amené, nous l'avons vu, dans la dimension de l'éternité. Et pour nous, c'est un peu difficile, cette dimension de l'éternité, de la comprendre. Parce que nous sommes cloisonnés dans une loi naturelle que Dieu nous a donnée. Qui a quatre dimensions, comme les mathématiciens le disent souvent. Ça s'appelle l'espace-temps. Ça, c'est une notion que nous avons, nous. Parce que Dieu nous a cloîtrés dans cette notion de loi d'espace-temps. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe plus dans l'éternité. Cette notion d'espace-temps ne sera pas du tout la même. C'est pour ça que la Bible dit que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour, et un jour, c'est comme 1000 ans. Dieu a créé l'espace-temps pour le monde naturel, physique. Mais ça, quand tu seras au ciel, ça n'existera pas. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais quand même, qu'est-ce qu'on va faire au ciel? On risque de s'ennuyer. Tu t'ennuieras pas du tout. Parce que tu n'auras pas les mêmes notions. Tu
ne
seras pas soumis à ces lois naturelles, physiques, que tu subis aujourd'hui et qui sont normales parce que tu es dans ton corps. Tu es sur la terre, tu es dans la dimension où il y a l'aspect physique. Et ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Alors, nous sommes en train d'étudier tous les textes, en tout cas la grande, grande majorité, de la Bible qui nous parle justement du trône de Dieu, de Dieu lui-même d'ailleurs, et de tout ce qu'il y a autour du trône. Et il est clair que nous pouvons plonger nos regards dans l'Ancien Testament, c'est très bien, et nous plongeons aussi nos regards dans le Nouveau Testament. La seule vision du trône que nous avons, dont nous avons la description dans le Nouveau Testament, c'est cette vision ici, avec quelques autres morceaux de vision dans l'Apocalypse. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs cas où il y a eu des visions du trône. Mais ce que nous avons pu remarquer, c'est que dans l'Ancien Testament, vous ne trouvez pas la Jérusalem céleste. Nous avons remarqué ça la dernière fois. Tu ne vois pas non plus de grandes foules autour du trône. Par contre, dans le Nouveau Testament, il y a la révélation de la Jérusalem céleste. Et d'une grande foule qui acclame Dieu. Par contre, dans l'Ancien Testament, il y a un certain nombre de descriptions. Entre autres, nous avons remarqué que dans Ézéchiel chapitre 1, il y a une ressemblance très importante avec justement ce que nous voyons, ces fameux animaux, ces quatre animaux qui sont mentionnés dans l'Apocalypse 4. Et nous avions vu la dernière fois comment ces êtres, quand Ézéchiel voit la vision du trône, lui il voit seulement les chérubins, il voit le trône. Rappelez-vous d'une chose, la Bible est claire, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Tu ne peux pas être dans ton corps et voir Dieu et vivre, ce n'est pas possible. C'est ce que la Bible dit. Elle en parle dans l'Exode et dans Jean chapitre 1 aussi. Il est dit, personne n'a jamais vu Dieu, c'est-à-dire face à face. Dans toutes les descriptions que la Bible va nous donner, vous n'avez pas quelqu'un qui dit j'ai vu Dieu face à face. Il voit une partie de Dieu, mais il ne voit pas pleinement toute la gloire de Dieu. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Là aussi, vous voyez dans l'Apocalypse de Jean, on n'a pas la description du visage de Dieu. La Bible seulement nous en donne quelques descriptifs, nous allons le voir. Mais c'est Dieu qui révèle certaines choses. Ce n'est pas un homme qui dit j'ai vu le visage de Dieu. J'ai une vision pour le visage de Dieu. Et voici la description sur le visage de Dieu. La Bible est claire. Et tous ceux qui vont avoir des visions dans des témoignages qui sont aussi dignes, je dirais, de confiance.
À
chaque fois, ils avaient cet ordre. Tu peux regarder le trône.
Tu ne
peux pas regarder le visage, la face de Dieu. Et à chaque fois, le Seigneur disait à ces personnes, car l'homme ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. Ça leur était répété. Les gens qui ont fait des expériences, tel que Jean a fait cette expérience, tel que Ézéchiel aussi a fait cette expérience, tel que Ésaïe a fait l'expérience de voir Dieu. Même, nous avons le récit de Moïse qui va voir Dieu, mais seulement une partie de Dieu. Personne ne pourra voir Dieu face à face en tant qu'être humain et continuer à vivre sur cette terre. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu a limité l'homme de ce côté-là. C'est pour ça que nous allons avoir une description de Dieu qui est un peu étonnante en partie, mais nous n'aurons pas une description précise de la face de Dieu.
Par
contre, Dieu va nous donner des critères de à quoi il ressemble dans sa parole.
Et
nous allons lire ces critères. Mais dans Ézéchiel, on voit, Ézéchiel voit très bien les chérubins, et il les décrit très bien. Et nous avons remarqué que, voyant aussi le trône, il a du mal à décrire ses chérubins parce qu'il voit des yeux partout, des roues qui s'encastrent les unes dans les autres. Par contre, il voit que c'est ce qu'il appelle les animaux.
Et
ils ont quatre faces, exactement comme l'Apocalypse de Jean. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le chapitre 10 d'Ézéchiel, Ézéchiel justement nous redonne une description et nous parle justement des chérubins ici au chapitre 10. Et il va dire, bon, on va lire quelques passages, seulement quelques versets. Verset 1 de Ézéchiel chapitre 10. Je regardais et voici que vers l'étendue céleste, il a encore une vision du trône qui était au-dessus de la tête des chérubins. Il y avait comme un saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose qui avait l'aspect d'une sorte de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, entre à l'intérieur du tourbillon sous les chérubins. Remplis tes mains de charbon ardent, tu les prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville, et il alla sous mes yeux. Alors, ensuite, il est dit, verset 3, les chérubins se tenaient à la droite de la maison quand l'homme arriva, et la nuée remplit le parvis intérieur. Alors, rappelez-vous, quand il est parlé d'hommes, ici, dans les visions, ce ne sont pas des hommes, ce sont des anges, ok ? Que ce soit bien clair. Ensuite, quand il est parlé de la nuée, ce n'est pas un nuage, ce n'est pas de la fumée faite avec du charbon de bois, ok ? C'est la gloire de Dieu. La gloire de l'Éternel monta, verset 4, de dessus le chérubin sur le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée, donc la gloire de Dieu. Et le parvis fut rempli de la clarté de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur. Pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin, c'est-à-dire ou à l'ange, prend du feu à l'intérieur du tourbillon entre les chérubins, et cet homme, entre guillemets, alla se placer près de la roue. Cet homme, ce n'est pas dans l'hébreu original. Alors le chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et le mit dans les mains de celui qui était vêtu de lin, et il le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main humaine sous leurs ailes. Alors là, il décrit encore quelque chose d'étonnant. Alors, il va dire, il va les décrire, et au verset 14, il dit « Chacun avait quatre faces. Les faces du premier étaient les faces de chérubins, les faces du second des faces d'homme, pour le troisième des faces de lion, et pour le quatrième des faces d'aigle. Et les chérubins montèrent. » Regardez bien, c'étaient les animaux que j'avais vus près du fleuve de Kébar. Versets
14 et 15, s'il vous plaît. Donc il
dit bien que ce qu'il voit ici au chapitre
10,
qu'il nomme clairement des chérubins, c'est ce qu'il avait vu aussi, et il décrit la même chose, bien sûr. Au chapitre 1, quand il parle, quand il était près du fleuve du Kébar, la vision qu'il a eue. Donc cette vision des chérubins correspond exactement à la vision que nous avons lue dans l'Apocalypse 4. Dieu n'a rien rajouté comme détail dans l'Apocalypse 4. Il nous donne simplement un certain nombre de signes qui nous permettent de reconnaître que c'est des chérubins. Il est décrit avec quatre faces,
les ailes,
etc. sous le trône. Et on a exactement, bah, dans Ézéchiel chapitre 1 et Ézéchiel chapitre 10, une description très précise de ces animaux. Donc on n'avait pas besoin de plus de révélations de la part de la parole de Dieu. Alors, une autre vision, c'est dans Daniel 7 aussi.
Daniel 7,
il y a quelques petits morceaux. Parce qu'il y a un certain nombre de visions, frères et sœurs. Il est dit, au verset 9, « Je regardais pendant qu'on plaçait des trônes l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête purs. » Donc verset 9 et 10 maintenant. 9, pardon. « Comme la laine, son trône était comme les flammes de feu et les roues. » Vous voyez les roues encore, il en parle. « Comme un feu ardent. »
Donc
là, il parle de roues. Rappelez-vous que dans la description d'Ézéchiel, il parle que les chérubins, donc ils ont les ailes, ils ont une tête avec quatre faces. Mais ils sont comme sur des roues, en quelque sorte, qui s'entremêlent les unes dans les autres. Avec des yeux partout. Et il voit de tous les côtés. Image du fait que Dieu, rien ne lui échappe dans l'univers, bien sûr. Alors, au psaume 18,
donc,
ils ont bien vu des trônes. Et ils ont vu les chérubins. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Psaume 18. Psaume 18, du verset 6,
kuva kuri gatandatu,
on va lire peut-être un petit peu plus loin. Voilà, il est dit, à partir du verset 9, on va dire, ça sera mieux. Il s'élevait de la fumée de ses narines. Alors rappelez-vous, la fumée, ce n'est pas de la fumée, ni de charbon de bois, ni de cigarette, ni de voiture. Okay, c'est ni plus ni moins quoi, l'onction. Hein, quand vous voyez fumée et Dieu, c'est toujours l'onction. On s'est bien d'accord. Il s'élevait la fumée de ses narines. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il inclina les cieux et descendit, avec une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur quoi ? Un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent.
Ne kuva ku murongo w'umunani mu kirundi ngumwotsi upfunduka mu mazuru yayo. Umwotsi mwibuke ko atari umwotsi w'itabi cyangwa umwotsi w'amakara cyangwa ibiti n'ubwiza bw'Imana ni igicucu cy'ubwiza bw'Imana umuriro uva mu kanwa kayo urayigiza amakara afatishwa nawo yandaza ijuru nayo nyene iramanuka umwiza w'umuzitanya wari munsi y'ibirenge byayo iguruka ibyagiye ku mukerubi.
Quand vous regardez une telle description, sachant que c'est un psaume de David, où il en avait fini avec Saül qu'il persécutait, c'est clair que David avait reçu une vision du trône. Il avait reçu une vision donc surnaturelle de la gloire de Dieu, puisqu'il en parle dans ce psaume. Donc on trouve un certain nombre de visions. Bien sûr, nous avions vu Ésaïe chapitre 6. Ça c'est très clair. À la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur, etc., etc. On avait lu déjà cette vision. Alors revenons maintenant à Apocalypse 4. Vous voyez, il y a un certain nombre de visions qui nous décrivent Dieu et entre autres ce qu'il y a autour de Dieu. Mais il faut le dire, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont quand même des différences, non pas sur le trône de Dieu et sur les chérubins.
Isezerano rya kera nari shasha hariho ubudasabuke atari ku ntebe y'inganje y'Imana ariko kuba
keru ce qu'il y a autour du trône
atari ku ntebe y'inganje y'Imana cyangwa kuba keru ubimugabo ibikikuje ntebe y'inganje.
C'est très clair qu'il y a une différence.
Hariho ubudasa bugaragara.
Il est dit, on revient à Apocalypse 4.
Ivyayishuriwe igice cha kane.
Donc verset 2, aussitôt je fus ravi en esprit. Je vous rappelle que le verbe ravir n'y est pas, mais je fus en esprit littéralement. Et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Et directement, qu'est-ce que j'en vois? Il dit, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Quelqu'un était assis. Quelqu'un était assis. Voilà, il voit un trône directement. La première chose qu'il voit, ah, un trône. Et il sait qu'il y a quelqu'un qui est assis. Ensuite, il décrit ce qu'il y a autour. Et quand il décrit d'abord Dieu, c'est un peu étonnant ce qu'il va dire. C'est pour ça que j'ai introduit d'abord en disant que personne n'a jamais vu Dieu face à face. Sauf ceux qui sont au ciel, bien sûr. Là, ils voient Dieu face à face. Mais ceux qui ont eu des visions, qui ont eu la grâce d'avoir ces visions, qui ont vu le ciel, ils reviennent. Nous avons des descriptions ici dans la parole de Dieu, mais personne ne nous décrit comment il a vu la face de Dieu.
Et
c'est normal, personne n'a jamais vu Dieu face à face. C'est ce que la Bible nous dit. En tout cas, celui qui est dans son corps mortel ne peut pas voir Dieu face à face. Donc là, il va nous décrire, il va nous donner une description de Dieu. Il dit, celui qui était assis, bien sûr, Dieu, avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect
d'émeraude.
Alors, il parle d'abord d'une l'aspect d'une pierre de jaspe.
Yasipi.
Alors, quand on fait quelques recherches sur ce mot, jaspe, cette pierre, il y a beaucoup de couleurs qui en émanent. On parle de violet, on parle de bleu, on parle de vert, on parle de couleur cuivre aussi. Puis après, il parle d'une pierre de sardoine, couleur sardoine. Rouge, orange et brun. Et il dit qu'il voit le trône et il va parler que le trône, un peu plus tard, il va dire qu'il est comme de l'émeraude.
C'est
à la fin du verset 3, l'émeraude. Et c'est vert. Alors finalement, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a vu? Bien, il a vu une forme. Il a vu une partie de Dieu. Mais il
ne
l'a pas vu face à face.
Parce
qu'il ne décrit pas son visage. Dieu avait dit ça à Moïse. Moïse se posait des questions. Vous savez, Moïse, il a vécu quelque chose d'absolument étonnant. Il y avait une voix qui lui parlait d'un buisson qui brûlait. Et qui lui disait plein de choses. Et Moïse se posait des questions. Il regarde autour du buisson. Il se dit, mais qui me parle? J'entends une voix qui est là, mais qui est là? Et au bout d'un moment, il dit à Dieu, moi, je veux voir ta gloire. À quoi ressembles-tu? Tu ne ressembles pas à ce buisson qui est en train de brûler. Et Dieu lui promet une chose. Il dit, je préfère passer toute ma bonté. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Mais l'homme ne peut vivre et voir ma face. Et nous verrons que Dieu va se révéler à lui d'une certaine façon que la Bible décrit avec difficulté. Parce que je vous ai dit aussi une chose. Toutes ces personnes qui ont fait ces expériences surnaturelles, ils ont du mal à décrire. Tout le monde vous dira, tous ceux qui ont fait ces expériences-là, ils vous diront, il y avait des couleurs.
Mais
c'était difficile à décrire. Parce que sur la terre, il n'y a pas exactement ça. On peut essayer de rapprocher certaines choses qu'on connaît et on voit en existant sur la terre. Mais c'est difficile. On va faire une remarque dans quelques minutes à ce sujet. D'abord, on va jeter un petit coup d'œil dans 2 Corinthiens 12. Parce que Paul va nous décrire une expérience. Une expérience qu'il a eue et qu'il a faite. À propos du ciel. Il a vu le ciel. Paul a vu le ciel. Il n'a pas décrit dans ses épîtres ce qu'il a vu. Il a juste fait un bref résumé au chapitre 12. Dieu a choisi un autre instrument. Qui est Jean pour pouvoir faire une description plus précise du ciel. Parce que Dieu choisit ses instruments. Paul avait déjà reçu beaucoup de révélations. Et d'ailleurs, toute la révélation de l'Église, les précisions sur l'enlèvement de l'Église, c'est ce que nous sommes en Christ, c'est ce que Jésus a réellement fait pour nous, c'est Paul qui avait déjà reçu ça. Et je pense que Dieu n'a pas voulu que Paul soit l'instrument où il y a quasiment toute la révélation par lui. Jean va faire vers la fin de sa vie cette expérience de cette vision de l'Apocalypse. Mais regardez ce que Paul va dire. Verset 1, il dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. Verset 2, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi, vous vous rappelez, aspiré littéralement jusqu'au troisième ciel. Je vous ai expliqué les trois cieux. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Verset 4. Fut enlevé dans le paradis. Regardez bien juste après. Et qu'il entendit, regardez bien ce petit morceau de verset ici. Et qu'il entendit des paroles ineffable qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors quand on lit cela, lis le verset 4 s'il te plaît en kirudi.
Aha yavuze ngo ndaza umuntu ngo yaduganwe akajanwa muri paradiso akumva ibitovugwa ivyo umuntu atemeregwa kuvuga.
Alors quand on lit ça, on a l'impression que Paul nous dit en fait il y a des choses que Dieu lui a dites.
Usomyo menga Paulo yabwiwe ibintu Imana yamweretse yamubwiye.
Et Paul devait faire c'est pas tout à fait ce que ce texte dit. Ce texte ne dit pas ça. Ce texte, en fait, dit ni plus ni moins qu'il fait cette expérience surnaturelle d'aller dans le paradis. Le paradis étant ce qu'il y a autour de la Jérusalem céleste. Mais il dit qu'il entendit des paroles ineffables. Des choses absolument phénoménales, incroyables, des révélations. En fait, qu'il est difficile à un homme d'exprimer, ce serait mieux traduit. Qu'il est difficile à exprimer parce qu'on manque de mots. C'est tellement glorieux qu'il est difficile de pouvoir décrire ce qu'on a vu avec des mots. Parce que si Paul avait dit qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer, que ça voulait dire qu'il n'avait rien le droit de dire.
Nimba Paulo yaza kuvuga ngaha ngo umuntu ngo atemererwa kuvuga nubwo ngo ntiyemerewe nta burenganzira bwo kubivuga.
Alors je comprendrai plus puisque la ce qui nous explique entre autres dans Éphésiens.
Icogevyongora kuko nk'ivyo avuga mu Banyefeso.
Il parle du mystère de l'église.
Aravuga kubijanye nibanga
ikintu cyo. Il dit qu'il a reçu ça par révélation.
Cishengero avuga ko yahawe mu guhishurirwa.
Et c'est évident que vu ce qu'il écrit, c'est pas simplement le Seigneur qui lui a parlé dans son cœur. Mais qu'il est évident que Paul est passé par une vision dans ce qu'il a reçu du mystère de l'Église. Et qu'on voit vraiment la vision qui a marqué le plus son ministère. C'est cette vision qu'il décrit ici. Parce que c'est vrai que Paul a eu d'autres visions.
Et
c'était plus pour des étapes de son ministère ou pour le début de sa vie chrétienne. La seule vision qu'il nous rapporte, quand vous étudiez la vie de Paul, qui est la vision majeur de sa vie en général, c'est-à-dire ce qui a marqué le plus Paul, c'est la vision qu'il nous décrit dans 2 Corinthiens
12.
Il a vu le Seigneur quand il s'est converti. Il a vu Ananias qui allait venir vers lui pour prier pour lui. Il a eu une vision un jour d'un Macédonien qui lui disait viens dans un rêve
et
qui lui dit viens et en fait passe de l'autre côté et évangélise-nous entre guillemets. Parce qu'au début du chapitre ici il dit j'en viendrai à des visions et des révélations. Donc, des visions plurielles et des révélations plurielles. Mais quand il parle, je vous rappelle que dans Révélation, il y a la révélation, c'est, je dirais, c'est une part de la vision. La vision, c'est voir dans le monde surnaturel, le monde spirituel. Par contre, la révélation, c'est ce qui vous est transmis. Comprenez bien la différence entre les deux. La vision, ça englobe tout. Jean va voir des choses, mais s'il n'y avait pas de message transmis,
il dirait,
j'ai vu ça, mais, point d'interrogation, je voyais des gens qui faisaient, j'entendais rien. Vous comprenez que la révélation, c'est ce qui va être transmis. La vision est un moyen de transmission. Mais la révélation, c'est la matière qui est transmise. Donc Paul ici, dans cette expérience qui est la plus marquante de sa vie, va clairement recevoir tout le mystère de l'Église qu'il va clairement écrire. Donc Paul dit, mais j'ai du mal à exprimer ce que j'ai vu, c'est ça. C'est ce que j'ai entendu. C'est un peu difficile pour moi d'exprimer de telles choses, il y avait tellement de gloire. Une autre chose qui nous est décrite quand on parle du ciel, c'est dans Hébreux chapitre 12. Là, on n'a pas une expérience.
Ce
n'est pas un passage où on relate un témoignage. Comme d'ailleurs dans 2 Corinthiens chapitre 12. Paul nous fait une description de son expérience. Il ne nous dit pas comme Jean. Jean, lui, il nous raconte sa vision. Avec ses mots, pour que nous puissions comprendre. C'est-à-dire qu'il dit ces choses, il dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, et il ramène ça avec des mots humains. Pour que nous ayons la meilleure description possible selon la capacité de notre compréhension en tant qu'être humain. Dans 2 Corinthiens 12, Paul nous dit, voilà ce que j'ai vécu.
Paul avuga ati ngiki rero
des choses tellement extraordinaires
nabayemwe ibintu bitangaje
c'est difficile à l'homme d'exprimer de mettre avec des mots
umuntu atemerewe umuntu adashobora kuvugisha amajambo.
Maintenant dans Hébreux chapitre 12
abayeburayo 12
l'auteur de l'épître aux Hébreux
wanditse iki gice cy'abaheburayo
va nous faire un résumé aussi de ce qu'il y a là-haut
nawe nyene aratubwira muri make ibiri mwijo
de ce qu'il y a au ciel. Mais au contraire verset 22 il dit vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité ou de la ville du Dieu vivant, c'est-à-dire de la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel.
Ngo ariko mwegereye umusozi Sioni n'umugwa w'Imana nzima Yerusalemu ho mwijuru n'ikoraniro rikuru gisinzi ry'abamarayika n'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mwijuru mwegere n'Imana umucamanza wa bose n'impuhe muzabagorotse batunganijwe rwose.
Donc voyez ici il décrit un certain nombre de choses.
Arero ariko aravuga utundi tuntu yongerako.
Mais c'est-à-dire il fait une description.
Aravuga
certainement parce que cet apôtre qui me semble être Paul a vu des choses.
Biboneka yuko uyu yantsiga igicete cy'abaheburayo nibaza ko ari Paulo
yabonye ibintu. Mais il ne raconte pas son expérience mot à mot tel qu'il l'a vécu.
Ariko ntavuge atera inkuru yose ngene yagenze.
Il nous donne juste une description générale.
Urumva avuga muri rusangi ingene bimeze.
Là il n'est pas en train de raconter des événements ou de choses qu'il a vu dans le ciel.
Ntagenda aravuga kimwe kimwe ngene n'icakurikiye n'icatanguye.
Il est en train de faire un résumé de ce qui est dans le ciel.
Agaragaza kuvuga muri make ibiri mwijuru ko bimeze.
Certainement de ce qu'il a vu.
Singekeranya n'ivyo yabonye.
Mais il ne raconte pas exactement en détail comment ça s'est passé.
Ariko ntavuge byose uko byagenze
kugira ngo. Il dit simplement voilà, il y a la montagne de Sion.
Urumva aravuga muri makati hari umusozi Sion.
Il y a la Jérusalem céleste.
Hari Yerusalem yera.
Il y a des myriades d'anges.
Hari isinzi ry'abamarayika.
Il y a des millions d'anges.
Na miliyoni na miliyoni y'abamarayika.
De la réunion de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux.
Onishengero ry'abana b'imfura banditswe mwijuru.
De Dieu.
Abana b'Imana.
Des esprits des justes parvenus à la perfection.
Umwegereye Imana umucamanza wa bose n'impuhe muzabagororotse
batunganijwe.
Mwegere na Yesu.
Et du sang de l'alliance.
Umuhuza heshi isezerano risha.
Et nous allons retrouver ces choses.
Umwegere na maraso acucaka
igice cyose tuzo. Dans le ciel.
Tuzobibona mwijuru.
Par la description que Jean nous fait de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse.
Uravye ivyo Yohana twereka mu vyahishuriwe.
On revient à l'Apocalypse.
Reka rero tugaruke mu vyahishuriwe.
Parce que vous savez, vous pouvez pas faire une étude sur le monde invisible.
Erega ntushobora kuvuga ku isi itaboneka.
Et particulièrement sur ce que Jean va voir ici.
Chane chane kuri ibi Yohana yabonye.
Si vous cherchez pas à étudier les différents passages parallèles qu'il y a dans la Bible.
Utasomye nibindi bivuga amajambo asa naya Yohana yabonye muri Bibiliya.
De les mettre ensemble.
Ukaya yegerana ukayasuzumira hamwe.
Donc ici, Jean va nous faire une description.
Ahanano Yohana aratucapurira.
De ce qu'il est en train de voir.
Aratwereka ivyo yari ko arabona.
Donc il parle de Dieu.
Aratubwira Imana.
Et il en donne une description assez vague, nous l'avons vu.
Agacha atwereka igicapo cyayo kitumvikana neza niko twabibonye.
Mais alors vous allez me dire mais où est le Père là-dedans, où est le Fils et où est le Saint-Esprit?
Alors on bazu tinone ngaha data ari hehe, umwana ari he, mpwe muyera ari.
Parce que ça c'est une question qu'on peut se poser.
Niki niki bazo dushobora kwibaza.
Mais Jésus nous a dit plusieurs fois, a fait des déclarations.
Ariko Yesu ari bintu yagiye aravuga kenshi.
La Bible nous dit que Christ, donc Dieu le Fils est assis à la droite du Père.
Bibiliya ivuga ngo Kristo Yesu yicaye iburyo bwa data.
Mais en fait, quand nous étudions ces textes-là,
umuntu asomye ivyo bice,
c'est assez intéressant.
Biraryoshe kuraba.
Parce que littéralement,
kubera ubisobanuye uko byanditse,
c'est dans Marc.
Muri Mariko,
Marc chapitre 16,
igice cya 16,
verset 19.
Murongo w'19.
Vous savez, Jésus va parler à plusieurs reprises.
Yesu inshuro nyinshi yaravuze
de lui et du Père.
Yaravuze we na data.
Et des fois il fait des déclarations qui sont un peu difficiles pour nos petites têtes à comprendre.
Ugasangara ibintu yagenda aravuga bigori imitwe yacu ko yotahura.
Il est dit le Seigneur après leur avoir ainsi parlé fut enlevé au ciel, au troisième ciel, je vous le rappelle, et s'assit à la droite de Dieu.
Ukando mwami yasahijeje kuba kubibabarira aduzwa mwijuru avyagira iburyo bw'Imana.
Littéralement dans le grec c'est la main droite de Dieu.
Mukigire gusobanuye neza ngo ni ukuboko kw'iburyo kw'Imana.
Alors nous quand on lit main droite de Dieu, on pense main.
Twebwe dusomye ukuboko kw'iburyo kw'Imana twumva ukuboko
nyene. Membre de notre corps.
Tubona ukuboko nyene
kw'Imana. En fait, ce n'est pas ça que ça veut dire.
Ariko mu byukuri si cyo bisobanura.
Ça veut dire que c'est dans une position d'autorité.
Ahubwo mu byukuri bisobanura ngo ni kibanza c'ububasha c'ubutegetsi.
Vous avez remarqué que Jésus est venu apparaître à Jean. dans la première partie, la première vision.
Mais
nous savons aussi que Jésus est assis sur le trône. Apparemment, Jésus bouge. Parce qu'il apparaît. Il y a des gens qui ont eu des visions depuis qu'il est ressuscité et assis à la droite du Père. Jésus est assis à la droite du Père. Littéralement, ça veut dire dans une position d'autorité. C'est ça que ça veut dire. Mais Jésus va faire certaines déclarations. Bon, d'abord, on va lire quelques passages qui vont essayer d'un petit peu mieux nous renseigner. Rappelez-vous, Jésus va apparaître à Jean, et là on ne voit pas le Père, on voit Jésus qui apparaît à Jean. Jésus va apparaître aussi à qui ? À Paul. Regardons Jean chapitre 1, verset 18. Je sens que vous êtes attentif. Quand on parle de Dieu, de quoi il ressemble, comment il est, les chrétiens, c'est la grande question. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Mais la Bible dit beaucoup de choses, mais elle ne donne pas une révélation complète. Regardez ici. Personne n'a jamais vu Dieu. On a cité ce verset précédemment. Le Fils unique qui est où? Dans le sein du Père. Et celui qui l'a fait connaître, excuse-moi. Dans le sein du Père.
Ce
n'est pas le sein de la femme. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas non plus dans le ventre. C'est encore une expression qui est la meilleure possible. Qui essaye de nous décrire Dieu. Vous savez, c'est difficile pour que nous ayons une description de Dieu. Parce que Dieu est infini. Nous nous sommes limités. On a appris, et à juste titre, quelque chose qui est entièrement biblique, que Dieu est un seul Dieu, mais on va parler de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ça, dans nos petites têtes, ça ne colle pas. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre avec ta tête. Donc, Dieu va te donner certaines descriptions. Là, il est dit que le Fils est dans le sein du Père. On va faire un petit tour dans Genèse chapitre 1, verset 1. Puis après, je vais vous montrer d'autres versets. Où Dieu, Jésus se décrit avec le Père, d'une certaine façon. Et ce n'est pas pour rien. Ici, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En étudiant ce verset dans l'hébreu original, vous avez au commencement ou dans un passé éternel. Et là, il est dit Dieu, mais voyez, Dieu pour nous, c'est Dieu, ça veut dire Dieu singulier. Mais le terme ici qui a été traduit par Dieu en français, ou dans toutes les langues qu'on va trouver, ça va être un singulier. Dans l'hébreu original, c'est le mot Elohim. Et Elohim, c'est un pluriel. C'est un pluriel. C'est terrible en Kirundi. Ils sont beaucoup, c'est ça? Ils sont nombreux. Donc c'est un pluriel. À l'opposé du singulier. Donc on va parler d'Elohim. Pluriel. D'ailleurs, c'est le pluriel d'un autre mot hébreu qui est Eloha.
mbere nubwinshi bw'irindi zina Eloha y'igiheburayo nyene.
Donc en quelque sorte, on pourrait dire au commencement Dieu Dux avec un X en quelque sorte.
Moyane majambo umuntu asobanuye yavuga ngo mu imbe bwa mbere na mbere amamana.
Mais attention.
Ariko no kugaba
directement.
Ubwo nyene bakivuga iryo
jambo. Le Saint-Esprit par la plume de Moïse. Va, je dirais, ne pas accorder le verbe avec le sujet.
Parce
qu'il va dire Elohim pluriel, non pas créer pluriel, mais créa. Singulier. On appellerait ça. Un professeur de français appellerait ça une grosse faute de grammaire. Pourtant, c'est un texte inspiré. Pourquoi? Parce que Dieu doit se révéler et se décrire à nous. Donc, il y a des choses dont on va avoir une révélation par la parole de Dieu. Mais qui, quand on étudie profondément, nous avons besoin de plus d'éclairage. Avec certaines descriptions. Le Fils qui est dans le sein du Père. Au commencement, Elohim, Dieux, Dieu pluriel, tout puissant, littéralement pluriel, créa singulier. Jésus dira,
yes, aravuga,
ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?
Vous
voyez, des déclarations comme ça.
Ça,
c'est intéressant. Sur le trône de Dieu, il y a Dieu le Père et Dieu le Fils qui font un. Et le Fils procède du Père.
Kandi umwana ava kuri data.
Et le Fils,
kandi umwana,
en quelque sorte, sort du Père.
Ava muri data
pour faire certaines choses.
Kugira ngo akore ibintu
et revient dans le Père.
Akongera gasubira muri data.
C'est la meilleure description qu'on pourrait donner.
Nibwo buryo bwiza umuntu yogerageza kubisobanura uko bimeze.
Pour nos petites têtes, c'est compliqué tout ça.
Ariko muri no mitwe
yacu. Comment les deux deviennent un et un redeviennent deux?
Ni gute abo babiri babumwe umwe akaba babiri bigenda gute?
Et le Saint-Esprit dans tout ça?
None mwe muyera muri byo byose.
Vous en faites pas, on le décrit un peu plus tard.
Nawe turaza kumuvuga ko mukanye.
Si vous avez lu Apocalypse 4.
Nimba mwarasomye ibyahishuriwe gice cha 4.
Mais justement, Jésus disait ça aux Juifs.
Yes, je crois la Bible.
Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père? Regardons ensemble ces déclarations. Jean 10, verset 38. Oui, il y a des versets qui à la fois s'expliquent et à la fois disent waouh, c'est pas évident. Il dit, verset 10, verset 38. Il dit, mais si je les fais, les œuvres en fait, c'est les choses qu'il fait, ces miracles, quand même vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et que vous reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père.
Dieu
est infini. Et Jésus déclare devant les Juifs, le Père est en moi et moi je suis dans le Père. C'est pas facile à comprendre. Parce que c'est une révélation de Dieu. Dieu assis sur son trône. Nous savons que le Père et le Fils sont sur le trône. Que le Fils procède du Père. Apparemment, sort du Père, du trône, entre guillemets. C'est ce qu'il doit faire, parce que le Fils bouge. Il apparaît. Il dit des choses dans le ciel. Il fait des choses. Et il revient dans le Père. Un jour, il y a un homme de Dieu qui a fait cette expérience. Qui a été au troisième ciel. Et il disait, je voyais Jésus. Je voyais Dieu. Juste une partie de Dieu. Sans voir le visage, je vous rappelle de Dieu.
Il disait,
je voyais Jésus sortir du trône. Me parler. Jésus lui a montré un certain nombre de choses. Puis après, il revenait dans le Père. Dans le trône. Et il a dit, c'est dur à expliquer. C'est difficile avec des mots à expliquer. La réalité du trône de Dieu et du Père qui est en Jésus. Et Jésus qui est dans le Père. Jean 14, verset 10. Jésus va encore dire cela. Verset 10 et verset 11. Il est en train de montrer à ses disciples qu'il est dans le Père, que le Père est en lui. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père ? Et que le Père est en moi. Les paroles que je vous ai dites, je ne dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Verset 11. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Revenons à l'Apocalypse chapitre 4.
Reka tugaruke ku byahishuriwe igice cya kane.
À quoi ressemble Dieu?
Imana isa gute?
Qu'est-ce que la Bible nous révèle sur à quoi ressemble Dieu?
Bibiri tubwira iki ku kugena Imana isa?
Nous en avons une révélation limitée.
Hari ahantu tubona bihishurwa.
Mais dans l'écriture,
ariko mu byanditswe,
il va y avoir quelque chose, hormis le fait que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père.
Kiretse yuko data ari mu mwana, umwana ari muri
Data. Le Fils est dans le sein du Père.
Que
le Fils procède du Père. À part ces choses, à quoi ressemble Dieu? Parce que là, Jean nous donne une description très, 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 très vague. D'autres textes nous donnent une révélation plus précise sur quoi ressemble Dieu. Genèse, chapitre 1. Versets 25 et 26, si mes souvenirs sont bons. 26 et 27. Genèse 1, versets 26 et 27. C'est Dieu qui va créer l'homme.
Imana iremye umwana w'umuntu.
À quoi ressemble Dieu?
Imana none isa gute?
Eh bien, on a la réponse ici.
Ari inyishu.
Puis Dieu Elohim dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tu veux savoir à quoi ressemble Dieu? Le Seigneur ressemble à Steve. Dis à ton voisin, tu ressembles à Dieu et Dieu te ressemble. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, d'accord, ok? Là, on peut avoir quelques doutes, mais la parole de Dieu nous dit bien à sa ressemblance. Et la Bible va nous révéler des critères qui confirment cela sur à quoi ressemble Dieu. Vous comprenez pourquoi le diable aime tant à ce que l'homme soit réduit à un animal. Dis à ton voisin. Satan aime bien que l'homme ressemble quasiment et se comporte comme un animal. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'au départ, la gloire et la ressemblance de Dieu
étaient
dans l'homme. Que Dieu a créé l'homme à son image. Parce que Dieu est un Dieu multicolore. C'est pour ça que nous sommes de couleurs différentes. Parce que Dieu a voulu révéler sa gloire. Parmi tous les hommes. Vous savez que dans la lumière blanche, il y a toutes les couleurs. C'est intéressant. Vous savez, la physique nous montre des choses simples. Si vous avez fait un peu d'optique, j'étais nul en optique en physique.
Mais
vous mettiez un faisceau lumineux de couleur blanche. Enfin, couleur blanche, non, c'est même pas blanc, c'est couleur lumineuse. Une lumière. Qui fonçait dans un truc qu'on appelle un prisme.
Et
qui va permettre de décomposer la lumière.
Et
on vous dit, dans cette lumière que vous voyez comme ça, il y a toutes les couleurs. On verra qu'il y a un arc-en-ciel autour du trône. Et ce n'est pas par hasard. Il y a plein de choses comme ça que la Bible nous montre. Mais là, Dieu dit à notre image selon notre ressemblance. Verset 27, il est dit, et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et la prochaine fois, nous découvrirons comment Dieu a créé l'homme et nous allons revoir les traits du visage de Dieu et les membres de Dieu. Mais comme la Bible dit clairement que personne n'a jamais vu Dieu face à face. Parce que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Alors, aucun d'eux n'a pu dire, voilà le visage que j'ai vu de Dieu. Par contre, il y aura des hommes inspirés par le Saint-Esprit qui vont nous donner des éléments de membres qu'ils ont vus de Dieu. Et l'image complète, eh bien, c'est ce que nous avons vu dans Genèse 1:26. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. J'espère que vous apprenez quelque chose.
Que
le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.